Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Penaranda, Mathilde Wagman, Hassan Mbechour, Virginie Mourtet, nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin.
La nuit rêvée de Patricia Mazui. Bonsoir Patricia Mazui.
Bonsoir.
Et merci beaucoup d'être avec nous ce soir et de vous être prêtée au jeu de cette nuit rêvée. C'est sur vos suggestions que nous avons choisi les émissions que nous allons entendre tout au long de la nuit. Nous serons ensemble jusqu'à 7h du matin. Cette nuit, grâce à vous, il va être question de western avec une émission consacrée à ceux de John Ford, de suspense avec un entretien de Alfred Hitchcock, de roman noir avec l'écrivain américain James Salis, et puis de théâtre avec Peter Handke et avec la comédienne Anne-Lise Heimburger, du Liban et de la Palestine grâce à un entretien avec l'écrivain libanais Elias Koury, et enfin de la figure d'un intellectuel un peu oublié aujourd'hui, Jean-Richard Bloch, qui, comme bien d'autres en son temps, entretint des relations riches et complexes avec l'Union soviétique. Ces personnalités, ces émissions renvoient à la fois à des préoccupations que vous avez en ce moment, à des projets de films en cours ou à des projets de films passés aussi, et puis aux univers qui vous inspirent et qui nourrissent votre cinéma, un cinéma qu'on a découvert en 1989 avec votre tout premier long métrage, c'était Peau de vache, un western rural en pays d'Artois avec Jean-François Stévenin, Sandrine Bonner et Jacques Spesser. Et depuis ce premier opus, vous avez réalisé 6 autres longs métrages, si j'ai bien compté, parmi lesquels, j'en cite quelques-uns seulement, Travolta et moi, film réalisé pour la collection Tous les garçons et les filles de leur âge sur Arte et qui racontait une tranche de la vie d'une adolescente dans les années 70. Et puis, quelques années plus tard, Saint-Cyr, un film en costume avec Isabelle Huppert dans le rôle de Madame de Maintenon, qui racontait son projet d'école pour jeunes filles à la fin du XVIIe siècle. Et depuis votre avant-dernier long-métrage, Sport de filles, avec Marina Hans et Bruno Gans, qui était sorti en 2011, on guettait impatiemment votre nouveau film. On a pu le découvrir en juillet dernier sur les écrans. Il s'intitule Paul Sanchez est revenu. Et pour ceux qui l'ont raté en salle, on va pouvoir le redécouvrir puisqu'il sera disponible à partir de ce lundi en vidéo à la demande sur toutes les plateformes et qu'il sortira en DVD le 2 janvier prochain. Patricia Mazui, en réfléchissant à votre filmographie et en essayant de la caractériser, de définir votre cinéma par-delà la singularité de chacun de ces films, j'ai pensé à des adjectifs tels que brûlant, incandescent, violent, tendu, explosif, mais aussi drôle, très souvent, quelque chose en tout cas qui aurait peut-être à voir avec le rock'n'roll. Est-ce que vous, si vous deviez définir le cinéma que vous voulez faire, vous utiliseriez ces mots? Quels mots est-ce que vous utiliseriez? C'est une question difficile.
Ah ouais, je sais pas. C'est pas à moi de le définir. Mais il n'empêche que si j'essaye de dire un truc pas trop con, je dirais que c'est que les films sont au présent de ce qu'ils racontent.
C'est-à-dire?
Bah, c'est-à-dire que, bah, en fait, en même temps, c'est comme mon bateau, c'est comme de dire 2 + 2 = 4, c'est-à-dire de dire que quand on fait une histoire, ben, on veut, quand on la regarde, on y croit qu'elle se passe en ce moment, devant nous, que ça soit, même si c'est au XVIIe siècle ou maintenant, que on veut croire au postulat dont on parle, quoi. Et puis, quelquefois, on rentre dans la tête d'un personnage et donc on peut faire des trucs un peu dingues.
Oui, c'est le cas notamment de votre dernier film, des trucs un peu dingues, il s'en passe, dans Paul Sanchez est revenu. Avant de détailler les choix que vous avez faits pour cette nuit, je voudrais qu'on parle un peu de ce film-là. L'histoire se passe dans une petite commune du Var où une jeune gendarme, Marion, qui est incarnée par Zita Enro, va bientôt être convaincue que Paul Sanchez, un homme qui 10 ans plus tôt a tué femme et enfant avant de se volatiliser, est revenu. Au début du film, personne ne croit à son retour sauf elle, mais peu à peu, la rumeur se fait de plus en plus plausible, puisqu'un homme, incarné par Laurent Lafitte, prétend en effet être ce Paul Sanchez. C'est un film qui est à la fois assez tendu comme un thriller, un film dans lequel on a peur, enfin il y a une certaine angoisse qui règne, mais qui est aussi traversé par des moments de comédie, des moments vraiment burlesques, notamment autour de la vie de la gendarmerie, qui est un peu ranimée par cette affaire. Comment est-ce qu'elle est née, l'idée de cette histoire? Quel a été le point de départ pour vous, l'envie d'écrire, de raconter cette histoire-là?
L'idée est venue de Yves Thomas, c'est lui qui avait eu l'idée du film, c'est-à-dire le scénariste du film. On a écrit à deux après, mais je l'ai un peu planté sur un film qui n'avançait pas, où ça, c'était, voilà, on était dans la gadoue sur un truc. Et enfin qui se faisait pas, enfin qu'il y avait rien, quoi. On était tous d'accord que juste il y avait pas de film après 6 ans de développement, donc c'était un peu bon,
un peu dur.
Ouais, et Yves m'avait appelé pour me dire j'ai un sujet qui tirait bien et qui est pas cher, parce qu'en plus moi le problème c'est que quand j'ai des idées de films elles sont tout le temps trop chères, avec plein de gens ou des trucs dingues et tout, enfin bref, donc du coup j'arrive pas à les monter, donc voilà, donc là c'était pas mal. Et il m'a parlé de ce personnage de criminel mythique, épouvantail local mais mondial. Mais en même temps, on a cerclé l'histoire dans un petit carré autour du rocher de Roquebrune dans le Var, où finalement tout le monde voudrait une autre vie. Voilà. La gendarme, le portrait de Marion, c'est Zita Enro, elle joue une gendarme qui s'appelle Marion. Et c'est une jeune gendarme. Ils sont tous dans une solitude totale. Ils ont la pression de la vie du moment, tous. Enfin, je veux dire, que ça soit les plaignants qui viennent à la gendarmerie, Paul Sanchez qui est en bout de sa cavale et qui est en train de péter un câble. En fait, c'est l'histoire d'un gros pétage de câble qui se communique, quoi. Et ça me paraissait vraiment actuel, dans le sens où il y a des moments où on peut avoir envie de péter un câble. Voilà.
Ouais, il y a aussi une certaine violence sociale qui se dégage.
Ouais, qui sort au bout d'un moment, dont on se rend compte au bout d'un moment. Parce que c'est vrai que l'idée aussi, c'était d'explorer un ton où on mélange le tragique et le comique. D'être sur ce déséquilibre permanent-là, quoi, voilà. Et puis, parce que ça me faisait marrer, quoi, aussi. De voir des petits hommes dans un grand monde, qui, même le commandant de la gendarmerie, qui est complètement ouf.
Qui joue par Philippe Gérard.
Ouais, c'est un cas, je veux dire, il n'est pas tout à fait normal. Les comédiens me parlaient de décalage. Mais, lui, il voudrait être Machiavel, quoi. Mais il n'en a pas vraiment les moyens intellectuels non plus. Il est dans une petite caserne où il s'ennuie profondément et où il gère les problèmes d'une femme qu'on ne verra jamais.
Et le territoire que vous avez choisi de filmer, ce coin du Var, il joue un rôle assez important dans le film, notamment ce rocher, le rocher de Roquebrune, qui a vraiment une place très centrale et que vous filmez un peu on a l'impression, ça évoque des images de western quand on regarde le film, mais en même temps, c'est un rocher qui donne sur une 4 voies, une autoroute et sur une zone périurbaine qui est assez, comme on en voit plein en France et qui est assez banale. Et là aussi, il y a un effet de contraste entre la majesté du rocher et cette zone-là. Est-ce que vous aviez, dès le départ, envie de tourner à cet endroit-là ?
Ah ben, l'idée de Yves du film est venue du rocher.
D'accord.
Parce que sa femme a une maison là-bas à côté, donc il connaissait ce rocher pour y avoir emmené ses enfants. Et en fait, il a eu l'idée du film en haut du rocher. Et donc, quand il m'en a parlé, moi, comme je ne connaissais pas du tout le Var et tout, je lui avais dit, on peut le faire ailleurs, dans un très bel endroit qui donne sur le monde et tout. Mais il m'a dit, faut quand même aller voir. Et en fait, quand on était en haut du rocher, j'ai compris l'intérêt profond et du Var, qui est quand même un mélange très écartelé de, enfin, je veux dire, il y a les milliardaires qui côtoient les vendeurs de pneus au bord de la route.
Et ils font tous, les milliardaires n'apparaissent pas directement dans le film, mais le film montre aussi cette coexistence entre des villas magnifiques avec des
dingues.
Grandes piscines, et des gens de peu.
Et des gens qui sont, c'est une classe moyenne. Ils n'ont pas souvent la parole dans le cinéma français. Mmh. C'est-à-dire que souvent on dit, on fait le portrait de marginaux ou de gens délinquants ou quand il y a un contenu social. Bon, je veux pas généraliser, c'est pas si vrai non plus. Mais en tout cas, il y a pas. C'est le côté le petit blanc, un peu comme dans la littérature de Faulkner, quoi. Eh ben, ils sont très présents là. Quand j'ai demandé à John de faire la musique, après je disais que c'était comme une espèce de banlieue de Las Vegas pour qu'ils comprennent.
John Cale, ouais. Qui a fait la musique du film.
Et donc c'est donner la parole à une classe moyenne qui craque, quoi, aussi. Mais c'est vrai qu'il part en grande logorée, Paul Sanchez.
Marion Brit.
Je suis Marion, je vous écoute.
Je veux parler à Johan.
Je suis la chef de Johan. Je suis au courant de tout. Je vous connais, j'ai lu tous vos mails.
Je vous écoute, vous pouvez me parler.
Je veux parler du tyran. Mon patron. Il dispose de moi comme de son esclave. Je suis son esclave. Je suis son chien. Le tyran me dit cours, ramasse. Allez, ramasse, ramène le gibier avec tes dents là.
Allez, plus vite, plus vite. Une force. Il me brutalise, il me viole. Il est dans ma tête, il est dans mon cerveau, il s'est emparé de mon cerveau. Le jour, la nuit. Allez, vas-y, ramène-la, ramène.
Ramène plus vite, là, ramène-le, ramène les espèces, là, que je foute de l'argent dans le coffre. Et surtout, tu dis rien à personne, hein. Il me force, il me brutalise. Je sais plus qui je suis.
Je suis son esclave. Tous les matins, il menace de me foutre à la porte. Et la bétonnière, la blessure avec la bétonnière. Trois fois rien, il m'a dit. Avec sa gueule de faux cul à trois fois rien. Et moi, marqué à vie comme une bête. Il sait pas qui je suis. Même pas, je suis rien pour lui. L'autre jour, il m'a appelé Georges. Eh, je m'appelle pas Georges, moi. Je suis pas Georges, moi, je suis Paul Sanchez.
Je suis Paul Sanchez!
Toutes les nuits, je rêve que je suis dans un trou. Un trou pour faire une piscine. J'y arrive pas. La bétonnière vomit, le béton se déverse. Je projette le béton sur les parois, mais il n'accroche pas, il coule, il est englouti dans la terre. Et l'autre, là, hein, qui veut du bonheur pour sortir de sa dépression. Il faut de la joie le matin, il faut de la joie le soir. Un 4x4 pour aller à la mer. Hein, des sous pour un nouveau frigo, des sous pour les études des gosses. Elle est déprimée, là.
Elle m'envoie des airs de reproche. L'argent pas assez, l'ambition pas assez, les gosses pas assez, les voyages pas assez. La vraie chie dans sa souffrance. Un morceau de douleur, celle-là.
Un extrait de votre film Patricia Mazui, Paul Sanchez est revenu, une scène assez centrale dans le film qu'il fait basculer à ce moment-là résolument du côté de l'angoisse. Cet homme incarné par Laurent Lafitte qui prétend être Paul Sanchez déverse à Marion, la jeune gendarme, son désespoir à la suite de quoi on a fait entendre...
Qui est Paul Sanchez.
Qui est Paul Sanchez, absolument. À la suite de quoi on a fait entendre la musique de John Cale qui, comme vous nous le disiez, a composé une musique... Pour le film, une musique qui évoque elle aussi l'univers du western. Comment est-ce que vous l'avez connu, John Cale? C'est pas la première fois que vous travaillez avec lui. Il avait notamment composé la musique de votre film Saint-Cyr. On le connaît, il est connu pour avoir été l'un des membres du Velvet Underground. Comment est-ce que vous l'avez rencontré?
Je vais répondre à ça. Par contre, par rapport à l'extrait, c'est vrai qu'on bascule dans l'angoisse, mais en même temps, c'est un moment complètement dingo, puisque quand ils répondent au téléphone... La jeune gendarme et le journaliste sont tous les deux tout nus.
Oui, il faut dire que c'est une conversation qui a lieu au téléphone. Que... Oui, oui, c'est vrai. Et que donc c'est la gendarme qui est avec un journaliste à ce moment-là en train de faire l'amour. Et oui. Ils sont tous les deux à poil dans, au lit.
Elle est venue avec lui parce qu'elle attend des nouvelles de Paul Sanchez. C'est-à-dire, elle est possédée par son obsession. Donc c'est quand même assez drôle quand elle dit « Je suis la chef de Johan, je vous écoute. » Elle est... une grosse menteuse.
C'est vrai, voilà. Et c'est une dinguerie du coup, ça apporte une dinguerie à la scène qu'on n'entend pas...
Qu'on ne peut pas voir son image.
Quoi. Oui, c'est vrai.
Et l'autre chose aussi, c'est que c'est vrai qu'avant ça, avant ce moment-là, Paul Sanchez n'a quasi pas dit un mot à personne. Quoi. Il est, d'ailleurs, c'était très dur pour Laurent à jouer, parce qu'il ne s'était pas rendu compte avant à quel point c'était un personnage dans la solitude absolue. C'est-à-dire, en fait, il est seul. Quoi. Il est seul et puis il part sur son rocher dans sa cavale... qui devient de plus en plus morbide, quoi, mais il est dans une, et il s'affronte à tous les éléments entiers, quoi. Enfin, bref, pour répondre par rapport à John, effectivement, c'était au moment de la musique de Saint-Cyr que Denis Fred, le producteur, à la base, enfin, il voulait une musique de film historique, où on allait aller enregistrer avec un grand orchestre en Tchécoslovaquie, ou je sais pas quoi, pour que ce soit pas trop cher, etc. Mais en fait, moi, je voulais pas une musique qui soit, post-Bernard Herrmann, disons. J'adore la musique de film, j'adore ça.
Bernard Herrmann, compositeur notamment des musiques de films d'Hitchcock.
Voilà, mais qui a quand même fait un truc énorme dans la musique de film en général, c'est-à-dire que la plupart des compositeurs qui composent maintenant composent Ils
ont Bernard Herrmann en tête.
Ouais, mmh. ouais.
Et s'inspire de son style.
Et ben et aussi que et ça vient aussi de la musique du 19e siècle de Ravel, Chopin et tout ça au niveau des harmoniques et tout. Enfin, ça vient du romantisme en musique, vraiment. Et comme Saint-Cyr se passait au 17e, je voulais pas de ça du tout. Et donc je me suis tapé des tas de disques de musique baroque, très beaux, mais moi je trouvais ça tellement rasoir. Et donc j'avais regardé de la musique baroque espagnole, c'était un peu plus chaud, disons. Mais il n'empêche que c'était quand même extrêmement... Oui, c'était comme si on mettait une espèce de vernis glacé intelligent sur l'histoire et que je pensais qu'il fallait pas, qu'on serait pas au présent avec ça. Parce que pour nous, c'est la musique du passé, quoi, d'une certaine manière. Enfin bref. Donc voilà, donc j'avais demandé au producteur, j'avais donné trois noms. J'avais dit, voilà, Brian Eno, John Cale et... Le gars, le japonais qui a fait la musique du film de Oshima avec Bowie.
Ryuichi Sakamoto.
Ouais, voilà. Bon, bref. Et en gros, ils étaient injoignables, ou trop cher, tout ça et tout. Et John était de passage à Paris. Donc, je l'avais rencontré et je lui avais mis longtemps avant le tournage. Quoi, je lui avais demandé de faire une musique de film de guerre qui soit pas dans une harmonie post-romantique. Qui soit une musique du XVIIe siècle, mais de lui. Voilà. Mmh. Et bon, après, c'était un peu compliqué parce qu'en fait, John est très romantique, morbide aussi avec le Velvet. Et il adore les cordes. Donc, en fait, on avait eu tout un moment où il pensait que l'histoire était très romantique avec ces jeunes filles qui mouraient et tout. Donc, il y avait beaucoup de cordes. Donc, finalement, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'entre Saint-Cyr et Paul Sanchez, il y a un côté où dans les deux, on a exploré trompette et tambour, quoi.
Voilà. Oui, mais là, voilà. Mais trompette et tambour qui là, enfin, moi, je sais pas, en l'écoutant, je me suis dit que vous aviez dû lui dire, j'aimerais bien que ça sonne comme dans un western. C'est le cas ou pas du tout?
C'est plus compliqué que ça. C'était, parce que si vous voulez, c'est vrai qu'il y a un rapport au western à cause du Rocher, mais je voulais pas, avec le chef op, qu'un jeune belge super qui s'appelle Frédéric Warhomme, et ben je voulais pas que ça. C'était vraiment un film français sur le Var, c'est un portrait du Var, donc fallait pas que. Je voulais pas que ça fasse western américain, je voulais pas que ça fasse film américain, je voulais que ça soit. C'est la montagne en elle-même et le trajet un peu héroïque de solitude qui fait western. Mais là, sur le. En l'occurrence, c'était un vrai chantier, la musique, entre John, moi et la monteuse Mathilde, parce que je voulais qu'il y ait du mélodique. À cause peut-être qu'il y a un côté, je lui ai fait écouter Nino Rota et Ennio Morricone, effectivement, beaucoup. Mais à la base, je lui ai dit, faut qu'il y ait de la mélodie, puis je lui ai fait écouter des musiques folkloriques provençales. 8 heures de musique de Provence, en disant, fait de la c'est sur la Provence, faut pas que ça soit... C'est en même temps, si, ça a donné la flûte, la trompette. Moi, je pensais que la trompette irait sur Marion, et en fait, non, la trompette, elle va sur Sanchez. Et c'est les tambours donnent le côté gendarme. Ça, on lui avait envoyé, pour qu'il fasse pas du tambour de rock, on lui avait envoyé des bandes de gardes suisses en démonstration concert. Voilà.
Le western, en tout cas, fait partie, il semble, de l'univers qui vous a inspiré dans le cinéma. Vous avez souhaité qu'on écoute une émission consacrée à John Ford cette nuit. On va entendre l'émission d'Antoine Guillot, Plan large, qui en 2017 avait reçu la chercheuse Cécile Gornet, auteure d'un livre sur les westerns parlants de Ford qui s'appelle L'écriture de l'histoire au miroir du cinéma. Votre rencontre à vous avec le cinéma de Ford, Patricia Mazui, elle remonte à quand?
Elle remonte à...
C'est un cinéaste que vous avez découvert toute jeune, dans l'enfance, ou c'était assez...
Non, dans l'enfance, je voyais les films de Charles Bronson et de Funès, je veux dire, j'étais en province. Et en fait, quand j'ai fait un an à HEC et je suis partie, je me sentais pas... Voilà. Mais je me suis beaucoup occupée du ciné-club et il y avait là un ami qui s'occupait du ciné-club, qui était un vrai cinéphile, qui était parisien, qui allait à la Cinémathèque depuis qu'il avait 7 ans. Et c'est lui qui m'a fait découvrir Renoir, tout ça, qui me disait, il n'y a pas que les westerns. Parce que oui, j'avais vu les Peckinpah, mais bon, tout ça, ça venait de John Ford, mais je savais pas, je connaissais rien, en vrai. J'étais vraiment la provinciale qui débarque. Et donc, oui, je pense que je les ai vus quand j'avais 18 ans. Voilà. Et là, ça a été un coup de foudre total, tellement je trouve ça le côté primitif qui est complètement métaphysique et en même temps réel, quoi. Voilà.
Sur le site de la Cinéthèque, il y a un site qui propose à des cinéastes de donner la liste des films les plus importants pour eux, films qu'on peut voir, en tout cas pour certains, en VOD sur le site. Vous citez 2 films, je crois, de John Ford.
Je pouvais en citer plein d'autres, mais simplement, on s'est restreint pour laisser de la place à d'autres cinéastes après aussi.
Ouais, mais quand même, il y avait L'homme qui tue à Liberty Valence et My Darling Clementine, La poursuite infernale en français. Quand même, ces deux-là... Qu'est-ce qu'ils représentent pour vous? Pourquoi les avoir malgré tout élus entre tous?
Parce que, je sais pas, on peut les revoir 25 fois, ils vont pas bouger. Parce que les personnages, je trouve que dans les films de Ford, les personnages sont sublimes. Et dans L'homme qui tue Liberty Valance, c'est quand même un film qu'il a fait quand il était vieux. James Stewart, il est vieux. Tout le monde est vieux, mais c'est bouleversant sur la vie. Je veux dire, et puis sur l'imposture, L'homme qui tue Liberty Valance, c'est quand même un truc sur l'imposture et sur la légende, quoi. Mais c'est vraiment une, puisque c'est à la fin de ce film-là qu'ils disent, bon, de toute façon, il faut imprimer la légende, pour que ça soit réel.
Lorsque l'histoire devient légende, il faut imprimer la légende, ouais. Dit mais le rédacteur en chef à James Stewart.
Mais c'est aussi, on peut le décliner sur un autre truc auquel je crois et qu'on voit dans tous les films de Ford. J'aime son rapport au paysage, enfin bon, tout ça, mais on enfonce des portes ouvertes, là. La légende ou l'imaginaire, par exemple, le personnage dans My Darling Clementine, finalement, l'histoire d'amour et l'histoire d'abîmée par la vie, de la pute, de tout ça. Enfin, je veux dire, les personnages atteignent tous une stature héroïque en étant des bras cassés. Bah, pas James Stewart, c'est pas un bras cassé. Mais lui, en même temps, il est d'une fragilité féminine absolue. Donc, je sais pas, je trouve que c'est... Moi, ça m'émeut de la première à la dernière image à chaque fois. Mais j'aurais pu en mettre plein d'autres.
Vous avez mentionné le fait que vous êtes passé par HEC. Vous avez fait une seule année, je crois, dans l'école.
Une année, 3 mois, oui.
Ouais. Pourquoi ce détour-là, à ce moment-là de
votre
vie ?
Parce que mes parents ne voulaient pas que je fasse une école de cinéma. Donc, j'étais jeune et que j'avais dit OK. Et j'étais rentrée là. Mais j'ai fait mes études de cinéma là-bas, d'une certaine manière.
Le ciné-club.
Ouais, avec le ciné-club. Et il y avait un prof de cinéma qui s'appelait Christian Dos, qui nous faisait faire des devoirs 1 heure par semaine. C'était le cours où j'allais le plus, quoi. Voilà.
Et après HEC, vous êtes partie, je crois, aux États-Unis, un peu par hasard au début. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette étape-là de votre vie? C'était pour faire du babysitting, il me semble.
Oui, en fait, je craquais un peu. J'étais un peu énervée. J'étais assez prétentieuse quand j'étais gamine. Donc j'avais aucun doute sur le fait que. À la base, je voulais faire Louis Lumière. Je voulais pas faire. À l'époque, c'était pas la FEMIS, c'était l'IDEC. Mais je voulais pas faire une. J'estimais qu'on n'apprend pas à être artiste. Mais que par contre, j'aurais rêvé d'apprendre la technique. Donc je voulais faire Louis Lumière. J'avais fait un bac S. Enfin, c'est scientifique. C'est quoi, c'est S? C'est à l'époque, mais maintenant S. Et enfin bref, et en fait non, mes parents voulaient pas, ils avaient trop peur que qu'est-ce que c'est que ce métier et tout. Donc je suis arrivée à HEC comme ça. Donc et en fait j'ai babysité, je faisais des babysitting et tout. Et à un moment j'ai babysité des enfants de milliardaires américains qui étaient de passage un mois parce qu'ils étaient venus pour caster leur gouvernante anglaise ou belge ou française ou suisse.
De passage à moi à Paris.
À Paris, c'était Jean Ocrillon, je crois. Et donc, quand ils sortaient, eux, ils avaient des babysitters normales. Et en général, quand ils rentraient, les mômes avaient foutu les babysitters dehors. La babysitter attendait dans le couloir de l'hôtel, mais les mômes les avaient mis. Et moi, j'avais tenu. Donc, ils m'ont proposé de les suivre parce qu'ils avaient trouvé une gouvernante qui n'était libre que 5 mois plus tard, anglaise. Donc,
et de les suivre, du coup, à Los Angeles.
Voilà, donc là, j'ai dit OK. Et j'ai envoyé une carte postale à mes parents en disant que j'étais à Los Angeles. Voilà.
Et c'est là que vous avez tourné votre premier court-métrage ?
Non, j'avais tourné avant un western muet en Super 8 avec Laure du Tilleul, où c'était à Rome. J'ai perdu le son, c'est très con. Il me reste quelque part la copie de travail en Super 8. Mais je l'avais fait, on était partis à 3, Laure du Tilleul, moi et un jeune gars sorti de Louis Lumière, et c'était un western où il faisait un cow-boy fasciste qui poursuivait une touriste dragueuse. Et les deux rôles étaient joués par Laure. Elle était soit habillée en cow-boy, soit en touriste dragueuse avec la jupe fendue jusqu'à la culotte. Et le cow-boy la suivait, et à la fin, ça se finissait par un duel place Saint-Pierre. C'est assez drôle. Enfin, c'était n'importe quoi. Voilà.
À Los Angeles, vous avez fait la connaissance d'Agnès Varda, je crois. C'est là-bas que ça s'est
passé.
Oui,
et surtout, en fait, parce qu'en fait, dans le court-métrage que j'avais fait à Los Angeles, j'avais mis la musique des Doors. Et quelqu'un m'avait expliqué qu'on n'a pas le droit de mettre les musiques qu'on veut dans un film. Et moi, j'ai dit, mais comment ça? C'est n'importe quoi, etc. Et puis, on m'a dit, mais t'as pas le droit de le vendre. Je dis, mais de toute façon, je le vendrai pas. Je connais personne. Personne ne le verra. C'est moi que j'apprends. Voilà. Bon, bref. Mais il m'avait dit, même, t'as pas le droit de le montrer. Bon, bref, ça m'avait fait flipper. Donc, la dame essayait de m'expliquer. C'était une dame À Los Angeles, la moitié des gens travaillent dans le cinéma ou dans la télé ou dans les machins, quoi. Donc c'était, je la voyais quand j'emmenais une des gamines de milliardaires faire ses cours avec je sais plus quelle star de natation à la piscine, et elle faisait aussi des... Enfin bref. Donc elle m'avait expliqué, elle m'a dit, écoute, va demander à Agnès Varda qu'elle t'explique, elle donne des cours en ce moment dans une université dans la vallée. Donc j'avais été mettre un mot, et Agnès m'avait donné un mot pour que j'aille voir l'avocat des Dors, qui m'avait fait un papier d'utilisation non commerciale. Voilà.
Donc grâce à elle, vous aviez pu utiliser...
Oui, en même temps, on s'en fout, puisque de toute façon, le film, j'en ai rien fait. Et puis de toute façon, j'ai perdu le papier.
Mais comment on passe rencontre à... Parce que vous avez ensuite travaillé comme... vous avez fait du montage, vous avez notamment été assistante monteuse sur Une chambre en ville de demi.
Oui, et stagiaire, puis ensuite, stagiaire,
pardon. Ouais, mais ensuite, vous avez monté Santoine-et-Loi.
Oui, mais Varda. Justement, quand j'étais à Los Angeles, là, Agnès avait vu mon court-métrage, que j'avais juste l'argent pour avoir 15 jours de salle de montage. Donc, j'avais pas fini. Elle m'a dit, viens monter la nuit dans notre salle de montage où on monte le jour. Et elle montait la journée un documentaire qui s'appelle Murmure sur les murales de East LA, de Los Angeles, avec Sabine Mamou. Et en fait, Sabine Mamou, un matin, m'attendait pour me dire, tous les matins, je trouve mes têtes sont encrassées parce que je mettais pas la magnétique dans le bon sens. Donc voilà, elle avait compris qu'en plus, je faisais 4 heures de bus pour y aller. J'avais pas le permis à Los Angeles, qui est quand même complètement dingue. Et plus tard, 2 ans après, quand elle est arrivée pour faire Une chambre en ville, elle m'a fait rechercher pour me proposer des stagiaires. Parce qu'elle m'avait trouvé courageuse, j'imagine, de faire autant de bus pour venir monter la nuit. Voilà, c'est comme ça. Et c'est Sabine qui m'a appris le montage. Et je lui dois beaucoup.
Est-ce que tu as vu un film récemment qui t'a donné comme ça ce sentiment que, bon, ça recommençait, c'était bien, c'était fort, c'était inattendu?
Oui, enfin, j'en ai même vu plusieurs. Un film qui m'a beaucoup frappé, enfin, c'est, de toute façon, c'est un film que j'avais envie de voir et dont j'avais très peur d'être... J'avais envie de l'aimer. C'est le film de... C'est Peau de Vache, le film de Patrick Hamazu. J'avais envie de l'aimer à cause des comédiens qui jouent dedans, tout simplement. Je la connais pas du tout. Et c'est un film qui m'a touché pour des grandes raisons, le rapport entre les gens et tout, mais parce que on sent qu'il va vers quelque chose dès le début. On sent que c'est un film qui va vers quelque chose. Et effectivement, plus le film avance, plus à mon avis il est fort, plus les rapports entre les personnages deviennent à la fois plus intenses et en même temps plus mystérieux, et qui arrivent brusquement sur une scène, à mon avis, extraordinaire. Tellement sidérante que j'ai eu envie de revoir le film une semaine après, pour le plaisir et aussi pour vraiment vérifier cette scène, ce qui se passait dedans, la façon dont elle était filmée. Parce que elle m'avait presque donné le sentiment, la première vision, des scènes qu'on rêve. Enfin, ça m'arrive assez souvent de rêver que je suis au cinéma en train de voir un film avec des moments. Là, j'ai vu des choses vraiment magnifiques, mais là, je me réveillais. Et puis, je ne pouvais pas le revoir. Là, j'ai pu le revoir. C'était effectivement sur l'écran. Je ne l'avais pas rêvé. C'est la scène où. La dernière scène où Jean-François, je ne me souviens plus des noms des personnages, je suis comme le bon public, je parle des films en disant les noms des comédiens. Donc Jean-François part sur la route. Ça, c'est un premier plan dans mon souvenir. Et il y a un deuxième plan où on voit Sandrine Bonnaire courir vers lui, le rattraper, essayer de l'arrêter, et ils continuent à marcher tous les deux assez longtemps, bon, en parlant, jusqu'au moment où ils tombent dans les bras l'un de l'autre, où ils s'embrassent, où Jean-François se tourne vers Sandrine Bonnaire et lui dit « Pars avec moi, avec la petite ». Tout ça s'est fait en un seul plan, à la main, je crois, un peu bousculé, mais sur le mouvement. Bon. Là encore, c'est très beau. Mais la caméra accompagne les personnages. Là, on passe brusquement sur un gros plan de Jean-François qui m'a D'ailleurs, la première fois que j'ai vu le film, ce gros plan m'a choqué, parce que c'est coupé quand même ce plan en très long, magnifique et tout. Qui est purement son regard sur Sandrine Bonnaire après avoir posé la question. C'est un plan assez court, on a aussitôt après le contre-champ, le gros plan de Sandrine Bonnaire, qui ne répond pas, qui le regarde, et puis le regard, son regard commence à bouger, elle-même commence à bouger, et là on comprend dans son mouvement, elle va à la place où était Jean-François, mais il n'est plus là, parti, la caméra continue à le suivre, elle est la caméra est derrière elle, on la suit, et on voit, on fait tout un mouvement derrière elle, et on voit Jean-François qui s'éloigne sur la route, et qui arrête un camion qui vient vers nous, et qui monte dans le camion, tout ça, à l'intérieur de ce plan, qui est parti sur le visage d'elle. Tout s'est passé, la réaction de Jean-François sur le fait qu'elle ne répondait pas à sa demande, le fait qu'il parte, tout ça s'est passé. Off, on l'a uniquement sur le visage de Sandrine Bonnaire et son mouvement, et c'est fini, il est parti, il s'en va. C'est pratiquement le dernier plan du film. Ce plan, je l'ai trouvé vraiment magique et à la fois, bon, c'était très bien filmé, en même temps, c'est faisant passer l'émotion d'une façon vraiment avec une invention de la caméra que je crois qu'il faut être cinéaste pour le voir, enfin en tout cas de façon très simple.
À l'instant, la voix de Jacques Rivette, c'est un extrait du film Jacques Rivette, le veilleur, réalisé pour la série Cinéaste de notre temps par Claire Denis avec Serge Danet. Serge Danet qui dialogue dans ce film avec Rivette, on l'entend au début lui poser la question des films qui l'ont marqué. Et il évoque donc la dernière scène magnifique de votre premier film, Patricia Mazui, c'était Peau de Vache. Il dit qu'il avait envie de voir le film à cause des comédiens, à cause de Jean-François Stévenin, avec qui il avait travaillé, et de Sandrine Bonnaire. Est-ce que c'est un film que vous avez vu, ce film dans lequel Rivette parle de Peau de Vache?
Je l'avais vu à l'époque, on m'avait invité à une projo et tout, j'avais été hyper touchée. Et impressionné. Voilà.
J'ai voulu vous le faire entendre pour évoquer la place des comédiens. Dans cette nuit, vous avez voulu qu'on écoute la comédienne Annelise Heimburger qui joue un rôle secondaire, mais un rôle important dans votre dernier film. Paul Sanchez est revenu. On va l'entendre lire un extrait du Petit Organon sur le théâtre de Brecht. C'était pour la séquence Je déballe ma bibliothèque dans l'émission de Marie Richeux. Pas la peine de crier, en 2013. Pourquoi avoir eu envie qu'on l'entende, elle, Patricia Mazui?
J'avais envie qu'on entende Annelise, Philippe Girard, Nora Krief, tous les acteurs.
Oui, vous m'avez cité plusieurs comédiens du film.
Parce que là, j'ai vraiment travaillé pour la première fois avec pratiquement que des acteurs de théâtre. Et avant, j'en avais très peur. Et je ne sais pas, maintenant, avec la maturité, maintenant, au contraire, je trouve que c'est un outil où on peut creuser et inventer. C'est avec eux. C'est-à-dire, c'est des personnes autonomes, du coup. Qui propose, et ça a été vraiment un tournage super éclatant pour moi dans le travail avec les acteurs sur ce film.
Et pourquoi peur? Vous aviez peur des comédiens de théâtre, vous voulez
non,
dire?
Non, des comédiens en général. Et du coup, d'autant plus des comédiens de théâtre, parce qu'on a toujours l'impression qu'au cinéma, il faut que ça soit spontané. On est dans la situation, souvent, en tant que réalisateur, on peut avoir tendance, pour se rassurer, à prendre une nature proche du rôle. Et on va faire du vol. Mais en fait, ça tient pas. Ça marche, par exemple, Garrel, ça marche son système parce que c'est d'une cohérence totale.
Garrel, oui.
Il répète pendant un an et après il fait une prise. Donc, mais c'est tout. Et pourtant, il y a une vérité, une spontanéité qui fonctionne à mort. Mais ça a été complètement incarné à l'intérieur, à l'avance. Mais moi, avant, j'aurais jamais osé répéter avant avec des acteurs. Et là, sur Paul Sanchez, à cause du ton qui était très précis, qui était proche de la comédie. Du coup, c'est très précis. Donc, du coup, ça me terrifiait assez. Je me suis dit, il faut... Et puis, c'était pas naturaliste. Donc, je pouvais pas prendre des acteurs non professionnels. Par exemple, tous les petits rôles sont tenus par des comédiens de théâtre du Sud. Parce que c'est trop pas naturaliste. Et donc, ça aurait marché avec des gens, des vrais gens, des non-acteurs, disons. Mais il aurait fallu que je travaille 2 mois avec eux pour rentrer dans le côté pas naturaliste, où on est dans le réel, mais dans un réel pas psychologisant, Et en même temps, moi, je crois vraiment à la psychologie. Je veux dire, par exemple, John Ford, s'il n'y a pas de psychologie, il n'y a pas de John Ford. Hein. Bon, donc il ne faut pas avoir peur de la psychologie, mais c'est de se complaire dedans qui est pénible. Enfin, j'ai l'impression, voilà.
Et le théâtre sera présent d'une autre manière dans votre nuit, en tout cas, puisqu'on va aussi entendre un entretien avec Peter Handke. Il évoquera en particulier sa pièce Par les villages, une pièce qu'il a écrite en 1981. C'était dans un entretien pour A Voix Nue, mené par Virginie Bloch-Lenné. Par les villages, c'est une pièce que vous m'avez citée quand on a préparé cette nuit. Pourquoi est-ce qu'elle vous a tant marqué, cette pièce-là de Peter Handke?
Parce que je viens de la découvrir. C'est très, opportun. Enfin, c'est juste un truc de circonstance. Et que je la trouve démente. Voilà. Mon fils m'a fait découvrir Peter Handke. Du coup, j'ai repensé à Bruno Gans. J'ai compris, parce que j'ai beaucoup appris aussi, j'ai arrêté d'avoir, c'est l'expérience de Sport de Filles avec Bruno et Balasco et Marina Hans. Finalement, j'ai compris des trucs aussi sur les acteurs qu'avant, j'étais plus au radar, disons.
Voilà. Vous avez aussi vous-même fait l'expérience du jeu. Récemment, on vous a vu dans un film d'Émilie Deleuze qui s'appelle Jamais Contente.
Et ça m'a énormément appris. C'est-à-dire, maintenant, je fais une attention extrême au HMC, à habillage, maquillage, coiffure. Mm-hmm. Parce que c'est l'endroit, le sas d'où sort l'acteur quand il arrive après sur le plateau. Et on peut démolir un acteur au HMC. Psychologiquement, je parle pas de mal le maquiller ou mal le coiffer ou quoi.
Oui, on peut le mettre dans un avant la scène en tant que telle.
C'est-à-dire, l'ambiance dans la loge où on les prépare, c'est vraiment important. Par exemple, là, sur Paul Sanchez, Laurent, lui, il est obligé de voyager de nuit à l'arrière d'une camionnette. Et pour être au HMC à 7 heures, parce que pour le transformer en Paul Sanchez, on avait 1h15 de travail. Sinon, c'est genre un beau gosse bien lisse, Laurent, à la base.
Laurent Lafitte.
Ouais. Et là, il est quand même quelqu'un en bout de cavale. Donc, il y avait un vrai travail. On a mis beaucoup de temps à faire son look et tout, mais à le trouver avant en prépa. Mais après, en prépa simple, on avait 1h15 de travail pour les cheveux, le machin, tout ça. Bon, bref. Et ça l'aidait, lui, à rentrer dans la peau du personnage. Mais si vous voulez, si après, il y a des gens qui parlent tout le temps ou qui parlent pas, enfin c'est une bonne coiffeuse, une bonne maquilleuse, une bonne habilleuse, si ils savent, ils parlent pas de la même manière aux acteurs suivant qui ils sont, voilà. Et puis il faut pas qu'ils soient non plus trop esclaves des acteurs, c'est-à-dire que en même temps les acteurs il faut les considérer comme des personnes, pas comme des espèces de, faut pas en avoir peur, donc voilà.
Merci Patricia Mazui. On se retrouvera tout à l'heure pour évoquer la suite de vos choix, des émissions que vous avez choisies, qu'on écoute tout au long de la nuit. Pour le moment, place donc à la première partie de votre programme. Anne-Lisa Imburger, qui lisait quelques extraits du Petit Organon sur le théâtre de Brecht au micro de Marie Richeux en 2013, puis une émission consacrée au western de John Ford, c'était dans Plan Large en décembre 2017. Peter Handke donc au micro de Virginie Bloch-Lenné dans A Voix Nue en 2013. Et enfin, l'écrivain James Sallis dans Mauvais genre en 2002. Vous nous direz tout à l'heure pourquoi vous avez voulu qu'on l'entende lui. On se retrouvera donc juste après toutes ces émissions.